Donc, bonjour à toutes et à tous et merci aux intervenants pour ces réactions très très riches et aussi pour avoir respecté les délais qui ont varié, un peu comme les rapports sociaux. Et ces quatre communications, il me semble, nous permettent d'avoir un aperçu de la grande hétérogénéité des situations dans les services, donc dans les services publics, dans les secteurs privés, dans les travaux associatifs, selon que les salariés travaillent en CDI, dans la fonction publique ou plutôt dans la sous-traitance, dans l'industrie, mais aussi en fonction de la dynamique des réactions des pouvoirs qui peuvent pencher tantôt du côté prestataires des services, tantôt des destinataires, les clients, les usagers, comme c'est le cas de manière donc patente, dans les cas donc de ces femmes qui servent des ouvriers professionnels à la cantine ou de ces hommes, enfin en large majorité des hommes, les concierges, qui servent une clientèle aisée composée certes par des hommes et des femmes, mais dans les cadres d'un service, celui des luxes, très patriarcal, comme il avait déjà été mis en évidence par Veblen à la fin du XXe siècle. Or, comment essayer de trouver un point, enfin un commun entre cette hétérogénéité? Moi, j'ai pensé de relancer en fait la thématique de cet atelier, c'est-à-dire la question des catégorisations. Et il me semble que dans les interventions de Sabine et de Céline soient évidente que dans les organisations offrant un service public et dont les membres sont soumis aux contraintes liées au New Public Management et à l'austérité budgétaire, de plus en plus donc ces salariés, ces fonctionnaires qui sont eux-mêmes en difficulté peuvent avoir recours à des catégorisations qui sont stigmatisantes, classistes, voire racistes, donc classification des usagers. Mais je vous propose, hein, c'est plutôt une piste de réflexion, peut-être essayer d'envisager davantage la question de la catégorisation comme d'un pilier des métiers des services qui n'est pas forcément synonyme des stigmatisations, mais que c'est une composante en fait fondamentale de toutes les professions qui sont en contact avec les publics et qui est nécessaire, comme il avait déjà été montré par Gadret, par exemple, dans sa socio-économie des services dans les années 90, dans les cadres d'une rationalisation professionnelle pour appréhender l'hétérogénéité des situations auxquelles on est confronté en faisant des économies psychiques et donc en recourant à des catégories qui nous permettent donc d'interpréter rapidement la réalité. Il peut s'agir parfois des stéréotypes, parfois des préjugés comme ceux qui sont évoqués par Goffman à propos donc de la façon d'appréhender la présentation des soins d'autrui lors des interactions des face-à-face, mais j'insiste sur les faits qui ne sont pas ces catégorisations, forcément des catégorisations stigmatisantes, peuvent être aussi un marqueur du fait que les professionnels disposent d'une certaine autonomie et donc par l'expérience peuvent maîtriser les situations auxquelles ils sont confrontés au cours de leur travail. À propos de l'hôtellerie, ayant moi aussi travaillé sur le tourisme des luxes, j'ai pensé à des entretiens avec des collègues, des concierges, des réceptionnistes qui m'expliquaient comment ils interprétaient en fait les situations auxquelles ils étaient confrontés à partir de l'origine géographique des clients. Donc chaque client, en fonction de son origine, est associé à des demandes, à des goûts, à des préférences auxquelles, une fois qu'on les connaît, grâce donc à l'expérience, mais aussi grâce aux échanges au sein du groupe professionnel, comme pourrait être celui des concierges, on peut anticiper leurs demandes. Donc des concierges me disaient que non seulement on a des attitudes différentes selon qu'on soit en interaction avec un Japonais, un Français, un Italien ou un Américain. Mais en ce qui concerne les Américains, ceux de la West Coast, ils ne sont pas du tout comme ceux de l'East Coast. Et au sein de l'East Coast, on avait des catégories très fines pour appréhender ceux qui viennent de Boston et ceux qui viennent de New York. Donc c'est là. C'est pour donc, enfin, vous inviter à réfléchir un peu plus sur ces catégorisations en ligne donc, avec la problématique de notre atelier et peut-être l'hypothèse est que dans les cadres d'une industrialisation des métiers des services avec un appauvrissement de ces métiers, il y a plus donc la tendance de la part des salariés soumis eux-mêmes à des contraintes difficiles à maîtriser au sein de l'organisation, mais aussi dans la relation de service, les recours donc à ces catégorisations stigmatisantes pour les usagers soient donc plus importants. Mais même dans les cas donc de ces évolutions, il me semble intéressant, c'est aussi une autre piste de réflexion, d'associer la genèse en fait de ces catégorisations stigmatisantes avec les régimes d'inégalité qui peuvent par ailleurs exister déjà au sein des organisations. C'est-à-dire ces mêmes salariés qui stigmatisent éventuellement les usagers peuvent être victimes des stigmatisations et des rapports donc des dominations au sein des entreprises et de la fonction publique. Est-ce que par exemple parmi ces personnes que vous avez interviewé, vous avez remarqué des différences selon que l'agent soit une femme ou soit un homme en fonction du plafond des verts, mais aussi en fonction des difficultés que, par exemple, les salariés issus de l'immigration peuvent rencontrer au sein de ces administrations. Et une dernière piste par rapport toujours aux catégorisations serait de faire les liens avec donc, les schémas cognitifs dont les salariés se servent en dehors aussi de la sphère professionnelle pour appréhender la société. Et donc, par exemple, quelles sont leurs opinions politiques peuvent devenir racistes ou sexistes suite aux difficultés qu'ils ont rencontrées au travail et donc à l'essor de ces catégorisations, ou ce sont des éléments qui existent et qui sont déjà latentes chez eux. Enfin, ce sont des hypothèses. Un dernier point qui, pour moi, pourrait être intéressant, c'est d'appréhender aussi ces tensions donc, entre les salariés et les usagers à la lumière de la mise en concurrence entre groupes professionnels issus de l'immigration avec donc, des usagers immigrés. Donc, est-ce qu'on peut retrouver plus de tensions lorsque, par exemple, les salariés ou les agents sont eux-mêmes issus de l'immigration et ont pu intégrer, par exemple, la fonction publique et ils ont à gérer donc, des nouvelles immigrations. Par exemple, par rapport aux concierges, il me semble qu'il y a aussi beaucoup des concierges qui sont d'origine italienne, d'origine espagnole, portugaise, donc des anciennes immigrations qui peuvent avoir intégré aussi la CEPAM ou d'autres administrations publiques et qui se retrouvent quelque part dans des relations, des tensions avec des nouvelles immigration. Juste un dernier point qui concerne plus peut-être Thibault. Bah, évidemment, j'étais très intéressé aussi par ton intervention, comme ce sont des problématiques sur lesquelles j'ai travaillé. Et donc, je t'inviterai à revenir un peu plus sur la question justement de la virilité de ces concierges, de la construction de la masculinité dans les relations à la fois avec les clients, mais aussi avec les collègues, car comme Thibault l'a bien mis en évidence, les concierges se retrouvent dans une situation qui est assez paradoxale parce que dans les cadres d'une division sociale du travail, celle de l'hôtel, qui miroite la division internationale du travail, donc dans les coulisses, ce sont des femmes racisées en large partie, de plus en plus embauchées par des sociétés de sous-traitance. Quelque part, les concierges, en tant qu'hommes blancs, ils sont au sommet de la pyramide sociale des hôtels. Ils ont les privilèges de travailler en interaction avec les clients, mais les clients, lorsqu'ils sont mécontents, ils peuvent être très, très agressifs envers eux. Et donc, qu'est-ce qu'il en reste de leur virilité, de leur masculinité qui est mise en avant dans les relations, par exemple, avec les femmes des chambres, avec les collègues. Et un autre aspect, toujours par rapport au concierge, qui est très, très intéressant, tu as évoqué la clientèle en provenance des pays exportateurs de pétrole. Ça, c'est très intéressant. Et ça m'a fait penser à quelque chose qui avait été remarqué récemment par les étudiants que Nicolas Junin avait envoyés dans les Triangles d'Or, donc à Paris, donc des étudiants de Paris 8. En large majorité issus de l'immigration, pour certaines des jeunes filles portant les voiles et qui, en ressentant la stigmatisation dans leur vie quotidienne, avaient été profondément surprises du fait que les voiles dans les triangles d'or, aussi comme dans les hôtels de luxe, comme on a pu les constater, assumaient toute une autre signification parce qu'il était bien accueilli, bien reçu, car c'est un synonyme des profits. parce que c'est porté par des femmes qui appartiennent aux élites donc de ces pays. Et c'est quelque chose qu'on retrouve dans les hôtels de luxe. Et donc, comment les concierges qui souvent peuvent être aussi, d'un point de vue politique, assez enfin, proches du management et des clients, leur volonté de ne pas fonder un syndicat, mais plutôt une confrérie, tu vois, en reprenant les modalités de fonctionnement des élites par cooptation. Ces positions par rapport à cette ambivalence, donc d'un côté, ils sont dominants dans un hôtel où les femmes, surtout celles racisées, comme on peut les constater, j'ai retrouvé dans plusieurs hôtels, par exemple, des situations de tension lors du Ramadan avec des affiches où il y avait marqué par des tons très menaçants, voilà, les ramadans, c'est pas une excuse pour pas faire votre travail, enfin, c'est quelque chose qui est très forte. Et en même temps, ces concierges se retrouvent à avoir à servir donc une clientèle qui est composée aussi par des hommes et des femmes voilées. Enfin, comment ils se positionnent donc aussi d'un point de vue problématique par rapport à ces contradictions dont ils sont au cœur. Voilà, je...
Merci Gabriel. On va donc passer maintenant à la discussion.
Oui, si vous pouvez.
Si vous voulez réagir.
Je ne sais pas si. Non, moi, j'ai pas grand-chose sur laquelle réagir. Je voulais seulement dire à propos de la. De la catégorisation à partir des inégalités, en effet, c'est justement au moment où les inégalités apparaissent dans les traitements des salariés par rapport à l'utilisation, à l'emploi des amortisseurs sociaux, qui la catégorisation entre femmes et hommes devient plus nette. Avant, ben, il y avait quand même un rapport qui n'était pas perçu comme domination, mais qui s'était vécu comme un, assez normal, c'est, qui renvoyait à un registre familial où les femmes faisaient à la cantine ce qu'elles avaient l'habitude de faire à la maison. De l'autre côté, à propos de la virilité, on voit par contre comme un moment où les ouvriers n'ont pas la possibilité de démontrer la virilité des fabricants d'acier parce que la production c'est très, très réduite. Ils ont tendance à jouer ce rôle de protection vis-à-vis des femmes. Ils disent souvent « on pense nous à vous, ne vous inquiétez pas, on va ranger les choses, hein. C'est notre tâche, c'est pas, ne vous plaignez pas ». Donc, cette idée de la virilité, de la masculinité qui passe par la protection des femmes plutôt que de la production qui est un péché de la crise.
Oui, non, moi je suis sensible à la piste que tu développes sur l'idée que finalement toute catégorisation n'est pas en soi stigmatisante ni en soi problématique. Moi je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais en fait, justement, c'est le point de départ du texte que j'ai écrit, c'est que j'ai pas eu ça, moi. D'ailleurs, sur le terrain, ce à quoi j'ai assisté, parce que je suis allée plusieurs fois dans la même entreprise, il se trouve par le biais de recherches successives, mais aussi plusieurs fois dans la même association. Et en 10 ans de temps, c'est parfois des histoires comme ça, d'un coup, on voit se resserrer complètement les schèmes de pensée, les systèmes de représentation et la façon de qualifier son travail, de dire voilà ce que je fais et voilà comment je le fais et voilà le sens que j'y mets ou pas. Et ce qui, moi, m'a frappé, que ce soit dans l'entreprise publique ou l'année où j'y étais allée, enfin, les années où j'y étais allée précédemment, il y avait énormément de mouvements qui étaient des mouvements spontanés de résistance à la rupture de fourniture d'énergie avec des équipes, des collectifs de travail qui refusaient d'aller couper. Ils n'allaient pas couper, ils n'y allaient pas, ils prétextaient, j'ai pas le temps, on a trop de boulot. Et puis lorsque les choses allaient un peu plus loin, on n'y va pas. Et donc il y avait non seulement des impayés parce que les gens ne pouvaient pas payer, mais il y avait aussi des situations qui perduraient parce qu'il y avait une résistance des salariés. Et quand j'y suis retournée, la résistance, je ne vais pas dire qu'elle n'existait plus parce qu'elle a réémergé dans le cadre d'un mouvement social contre la privatisation qui a pris cette forme-là, c'est-à-dire que c'est le mouvement social qu'on a appelé le mouvement des Robins des Bois. C'est-à-dire qu'ils ont, ils ont coupé les riches pour aller... ils n'ont pas alimenté les pauvres, mais enfin, ils ont coupé les riches. Ils étaient allés couper l'électricité du président, enfin, du chef du MEDEF, etc. etc. Bon. Et bon, donc, du coup, c'était intéressant de voir que cette histoire, finalement, elle n'était pas tranchée. Syndicalement, en tout cas, elle n'était pas tranchée. Mais globalement, je faisais des observations dans les centres, voilà, et je montais dans la voiture avec les équipes, avec les techniciens, et on faisait des tournées de coupures. Alors, je pourrais expliquer tout ça. Souvent, alors j'ai eu des grands types d'aptitudes. Alors, il m'est arrivé une chose sur le terrain qui ne m'était jamais arrivée auparavant. J'ai été éjectée de la voiture par un technicien qui avait accepté que je vienne. Mais quand il s'est rendu compte que nous ne ferions que des coupures, il m'a laissé au bout de 20 mètres en me disant « c'est hors de question ». Il m'a viré de la voiture directement. Donc, je me suis dit « il y a quelque chose là ». Qui est de l'ordre de l'éthique, de l'ordre de l'image qu'on a envie de donner de soi au travail, etc., et qui n'est bon. Mais globalement, j'avais plutôt des techniciens qui m'expliquaient que ah bah c'est encore, ah bah encore les mêmes. Et ah bah tiens, là on va arriver au quartier Rome, ah bah tu vas voir. Là on va arriver chez les Maghrébins, là on va arriver. Bon, et tout ça passait très bien. Et il n'y avait pas de question. Je ne veux pas généraliser. Il n'y avait pas de questions qui étaient sur la pauvreté structurelle, etc. Il y avait des questions, mais on a tout fait pour eux. Tout a été fait, tout. Et donc, puisque tout a été fait et qu'on en est là, c'est que soit ils sont incapables, soit ils sont mauvais esprits. Et finalement, ce qui permettait ça, c'était, et c'est là où pour moi c'est intéressant, c'est sur la construction des catégories, c'est que ça a une origine. Moi je ne veux pas essayer de... que ce soit sur les femmes de l'association, ça je pourrais en parler également, je ne veux pas naturaliser ou essentialiser ça. C'est-à-dire que ce que je vois, c'est que ce sont des organisations du travail qui changent, c'est que ce sont des conceptions de l'activité qui changent, c'est une vision du service public qui n'a plus sa place, c'est-à-dire qu'on n'est plus en train de parler de ça, on ne parle plus de qu'est-ce que ça veut dire fournir de l'énergie, qu'est-ce que ça veut dire aider les chômeurs, on parle de l'activation. Et moi, je pense, en tout cas, c'était la proposition que je faisais, c'est que ça favorise l'émergence de catégories, pour le coup, stigmatisantes. Pour le coup, essentiellement stigmatisantes, essentialisantes, racistes. Hein, voilà. Mais après, il y a plein de choses, mais peut-être dans la discussion, on peut y revenir.
Céline ?
Oui. Alors, pour rebondir sur cette question sur les catégories stigmatisantes, etc., les demandeurs de l'AME sont une catégorie qui est plutôt positive, c'est les bons usagers, les bons demandeurs, mais justement, pour reprendre aussi ce que vient de dire Sabine, c'est cette figure, elle est possible, enfin, cette bonne figure, elle est possible aussi par rapport aux conditions de travail. Et moi, je pense qu'effectivement, ces entretiens et le fait qu'il y ait du temps et qu'ils ne soient pas soumis à la pression pour recevoir ces usagers font qu'effectivement, ils sont mieux perçus. Et que dans d'autres... Si c'était autrement, et si, comme les demandeurs de la CMUC, ils ne pouvaient pas être reçus, ils n'avaient pas le temps pour eux, etc., ça... Ces catégories, elles seraient sans doute retravaillées et elles donneraient aussi sans doute d'autres relations. Voilà. S'il y a plus de tensions quand les agents sont eux-mêmes issus de l'immigration, ça, j'ai pas forcément vu. C'est vrai que là, je les présente aussi, oui, comme une figure assez générale, partagée. Mais c'est vrai que... Bah, je les retrouve effectivement quand même partagées, même si on peut avoir des nuances. Et c'est plus justement dans les réactions face à l'évolution des conditions de travail, s'ils sont en posture de justement proche de la retraite ou ils veulent pas faire carrière et où ils s'en fichent de respecter cette productivité. C'est plus là où je vois des différences qu'en fonction de profil, de trajectoire sociale que j'ai moins creusé aussi. C'est le parti aussi de l'observation. Du coup, voilà, j'ai moins de choses comme ça. Pareil sur les schémas cognitifs en dehors, ça je peux pas dire. voilà.
Merci Gabriele pour tes questions. Alors rapidement, par rapport aux catégorisations indigènes de la clientèle, il me semble, enfin c'est l'hypothèse que j'avais émise dans mon travail, c'est que en fait, Enfin, j'en avais une lecture toujours sociale, en fait. C'est-à-dire, je vais donner un exemple pour être plus clair par rapport à la clientèle russe qui est souvent composée d'oligarques et qui sont arrivés au pouvoir à la chute de l'URSS et qui se sont enrichis très rapidement. Ils sont en général... Enfin, c'est assez ambivalent la manière dont ils sont perçus, il me semble, hein, par les travailleurs de l'hôtellerie. C'est que, à la fois, c'est des gens qui dépensent énormément et qui, d'ailleurs, cherchent à toujours dépenser au maximum. J'avais cette histoire d'un Russe chez un caviste qui voulait absolument acheter la bouteille de champagne à 500 euros, alors qu'il lui disait « mais elle est madérisée, elle ne sera pas bonne, elle est là pour décorer, prenez celle-là, elle est à 80 euros, ce sera bien meilleur ». Mais non, il faut acheter le prix, en fait. Donc voilà, ces dépenses-là amènent du coup un commissionnement qui est assez intéressant pour le concierge en termes matériels, mais simplement le problème n'est pas résolu comme ça, parce qu'il y a aussi le fait que quand l'argent est facilement sorti comme ça, comme c'est aussi d'après eux avec le cas avec la clientèle issue des pays exportateurs de pétrole, c'est que ça ruine complètement l'effort de camouflage, en fait, de dénégation de l'aspect économique des choses. C'est-à-dire que le concierge s'efforce de maintenir à la fois une image de l'amour du service, et je pense qu'elle est sincère, il y a les deux, en fait. Il y a à la fois l'attrait pour les avantages matériels et l'envie de faire son travail bien. Et quand on essaie de concilier ces deux choses qui sont potentiellement contradictoires, alors ça devient négatif aux yeux des travailleurs. Il me semble que c'est ce qu'on retrouve avec la clientèle russe, par exemple, avec la clientèle également issue des pays exportateurs de pétrole. Et donc, du coup, une lecture plutôt sociologique, plutôt qu'ethnique, ou je ne sais pas, et que le racisme va procéder de chemins qui s'expliquent par toute autre manière. Et on retrouve, d'ailleurs, du point de vue de la direction, une instrumentalisation encore, là, des compétences supposées naturelles chez les femmes, qui est que, voilà, la clientèle issue des pays exportateurs de pétrole, les princesses arabes, auront besoin de s'adresser au guichet à des femmes, et non pas seulement à des hommes, donc on va recruter des femmes. Ça, c'était un des arguments qui était en cours à l'époque. Voilà, et puis juste pour répondre rapidement à la question sur, parce que j'en ai pas trop parlé, mais les manières sur cette question de la virilisation, ou la revirilisation d'un métier qui potentiellement se féminise dans les représentations. L'idée, c'est qu'il y a beaucoup de choses dans l'hôtellerie de luxe, et Rachel Sherman l'a très bien montré, hein, c'est une sociologue américaine qui a fait de l'ethnographie sur les employés du luxe, hein, elle montrait à quel point il y a beaucoup de choses qui se jouent dans les marges, en fait. L'hôtel de luxe est un environnement très théâtralisé, il y a les coulisses, l'avant-scène, voilà. Bon, bah, dans les coulisses, dès que le client a le dos tourné, c'est des moments où on se rattrape, où on a perdu la face, mais on la retrouve en disant à ses collègues, oui, un tel, en parlant mal, enfin voilà. Ce qu'on ne ferait jamais, évidemment, face aux clients. Et puis, il y a aussi toute la difficulté, que j'en ai pas parlé, j'ai juste évoqué, j'ai dit le mot, l'informalisation, mais les relations entre les classes sociales, si on suit Cass Wouters, hein, qui prolonge un peu les travaux de Norbert Elias, selon lui, les relations dans les sociétés démocratiques entre les classes doivent s'assouplir. C'est-à-dire qu'il y a un tabou sur le fait qu'on va... Il y a un tabou sur les marqueurs trop évidents des distances de classe. C'est-à-dire qu'il faut maintenir cette distance de classe, hein, on ne va pas lâcher l'entre-soi, il faut absolument maintenir la pureté sociale des groupes, etc. Mais on ne peut plus le faire de manière aussi marquée qu'au 19e ou avant. Et donc, les mœurs s'informalisent, mais les distances vont devoir passer par d'autres canaux là aussi. Et les concierges vont, en fonction de leur origine sociale, ne pas forcément être... tous aussi bien armés par rapport à ça. Et donc, c'est intéressant de l'avoir en tête quand on fait varier l'origine de classe des clients et aussi celle des travailleurs qui sont en face dans l'interaction.
Il nous reste 10 minutes avant la pause. Est-ce qu'on prend quelques questions ou remarques ?
Bonjour. Alors, moi, c'est Louise Boivin de l'Université du Québec en Outaouais. Madame Kergoat, j'aurais bien aimé vous entendre quand même. Un petit commentaire. Je fais une demande spéciale. La dernière fois, vous étiez venue à Montréal, mais il y avait une grève étudiante. Vous n'aviez pas pris la parole pour respecter le droit de grève. Alors, non, mais j'aurais aimé vous entendre. Mais bon, j'ai un petit commentaire. J'ai trouvé intéressant, bien sûr, les présentations. Mais je me demandais, là, parce que bon, ce matin, on a eu quand même, avec Mme Hirata, une discussion sur la question, bon, les débats autour d'intersectionnalité, du concept, tout ça un peu... brièvement, et consubstantialité. Bon. Mais Thibault Menou, c'est ça, je ne vois pas, Menou, vous présentez, au début, vous commencez en disant, ben, je fais une étude statistique, vous parlez de variables, vous parlez de statistiques, et vous dites, bon, ben, il y a prépondérance vous parlez de la masculinité, mais en fait, mais c'est la variable Sexe, homme, c'est ça. Donc, et puis après, pour dire, pour critiquer le concept d'intersectionnalité en disant que c'est comme trop des catégories figées. Mais c'est évident que si on définit le genre par le sexe et puis qu'on regarde les statistiques et puis qu'on superpose trois types de variables, évidemment que l'intersectionnalité est figée parce qu'on la résume à un cumul de variables. Donc, c'est pas comme ça que ça a été théorisé à l'origine. Donc, je voulais juste demander si c'est ça, c'est quoi l'intersectionnalité à travers une étude statistique, comment on peut la capter, c'est, je comprends pas. C'était ma question, c'est peut-être plus d'ordre épistémologique, mais je ne pouvais pas m'en empêcher. Merci.
Oui, bonjour, c'est une question surtout pour Thibaut Menou. J'étais très sensible à l'utilisation de la théorie de Kass-Wouters sur le tabou sur les marqueurs de l'appartenance de classe, sur les marqueurs de la hiérarchie sociale. Et question, donc effectivement, je vous ai beaucoup lu, donc je sais que les personnels de service eux-mêmes sont autocontrôlés, comme dirait Kass-Wouters. Dans ce domaine, ils essayent de s'empêcher de manifester de la servilité, par exemple, aujourd'hui. Question, qu'est-ce qu'il en est pour quand ils sont face à ces nouveaux riches que sont les porteurs de pétrodollars, les Russes qui débarquent, etc., et qui n'ont pas appris, comme dirait Elias ou Kass-Wouters, la politesse des anciens riches, et qui donc seraient d'accord à recevoir des marques de servilité et de prestige, quoi.
C'est juste une interrogation sur la remarque que faisait Gabriele, qui regroupait un petit peu l'ensemble. Et effectivement, sur l'idée de catégorisation comme opération cognitive pour appréhender la réalité et pour, en gros, se simplifier le travail, c'est quelque chose qui est extrêmement fréquent dans beaucoup de métiers, pas seulement dans la relation de service d'ailleurs. Bon. Mais n'empêche que, et je pense à la remarque de Sabine, dans la réalité, qu'est-ce qu'on observe, hein? C'est un peu une question que je pose, hein? Je ne l'ai pas résolue, mais n'empêche qu'on s'aperçoit bien souvent qu'à partir du moment où on fait des groupes, la plupart du temps, ces groupes sont hiérarchisés à un moment ou à un autre. Hein. Et donc, ce qui est quand même assez banal. Hein, et justement, j'aurais voulu poser la question d'une catégorisation qui ne soit pas classante, qui ne soit pas hiérarchisante, avoir des exemples, contre-exemples, en quelque sorte, parce que dans la réalité, moi, c'est ce que je vois. Hein. J'ai pas de contre-exemple à me mettre sous les yeux pour l'instant. Même si l'idée est séduisante, hein, mais... Oui, qu'elle soit pas hiérarchisante au minimum. Mais c'est une question, hein, je ne l'ai pas résolue. Hein. J'ai l'impression que c'est souvent ça.
Merci. J'avais juste un commentaire par rapport à la communication de Madame Tonarelli sur les relations entre donc ces femmes qui travaillaient dans les usines et les hommes, ces femmes qui voyaient dans les hommes des fils, des pères, des maris. Et les hommes aussi qui voyaient chez ces femmes, les mères, les voilà. Et du coup, effectivement, comme vous l'avez dit à la fin, dans les relations de service, il y a tout le côté matériel et ce côté relationnel qui est, je pense, extraordinairement important. Et par exemple, quand on regarde le Caire, dans ma thèse, j'ai parlé de transfert et de contre-transfert dans le Caire par rapport à ça. Et justement, ce qui se pose dans le travail domestique, par exemple, c'est qu'en fait, il y a une sorte d'interdit à ce niveau-là. Est-ce que j'ai le droit de reconnaître, en tant que nounou, par exemple, cet enfant-là comme le mien? Est-ce qu'il est acceptable que cet enfant-là, par exemple, me prenne pour sa maman? Est-ce qu'on accepte qu'il m'appelle maman, etc. Donc, du coup, finalement, relation de service, c'est vaste. Et juste en écoutant ce qui se passe dans la table, on voit peut-être déjà les frontières entre les différents types de métiers. Dans les relations de service, on voit par exemple qu'on n'est pas du tout dans le cadre, dans le travail domestique, et je ne sais pas si je suis la seule à voir les choses comme ça.
Bon, vous reprenez chacune, non, chacun.
Je crois que c'est Thibaut.
C'est pas...
Non, Thibaut, peut-être, il va commencer. Il n'a plus des questions.
Il y a 10 minutes, alors, pas du tout.
Merci pour ces questions. Sur la question des trois variables et de l'utilisation des statistiques, en fait, c'était simplement pour faire un cadrage qui permettait de repérer si oui ou non il y avait un profil un peu modal et s'il évoluait au fil du temps. Et en fait, il me semble que la question, évidemment, oui, c'est pas le genre, c'est pas le sexe, c'est pas là où ça se joue, mais c'était pas exactement ça que je voulais dire. C'est que, mais peut-être que j'enfonçais une porte ouverte. Hein, par contre, c'est fort possible. C'est juste que il me semblait que pour pouvoir parler d'intersectionnalité, il faut quand même savoir où est-ce qu'on se situe, par exemple, dans l'espace social. Pour l'idée de la classe, qu'est-ce qu'on en fait ? Il faut pouvoir placer les individus dans l'espace social. Et que, par exemple, pour le genre, il me semblait que on pouvait jamais parler de genre tout seul, quoi. Que c'était pas, on prend le genre et on le croise avec la classe, par exemple. Et un exemple que j'avais, c'est par exemple la façon dont l'homosexualité des travailleurs de la loge était perçue. Alors l'histoire, c'était un coming out d'un concierge qui me racontait en entretien. Il m'expliquait qu'en fait, il y avait eu un malentendu sur son coming out. Tout le monde pensait, ah mais on pensait que t'étais bourgeois, on pensait pas que t'étais homo. Et en fait, il y avait une réinterprétation des marqueurs de classe. Qui sont le raffinement, le fait d'être bien habillé, le fait de parler d'une manière un peu hautaine, je reprends les termes indigènes, hein, qui étaient en fait réinterprétés comme des marqueurs de classe bourgeoise qui est interprété du coup comme hostile. Et je trouvais que c'était intéressant de voir que là, les lectures de genre étaient complètement indissociables d'une lecture en termes de classe. Donc c'est pour ça qu'avec mon histoire de jeu de Mikado, là, je trouvais que ça marchait pas comme ça, mais peut-être que je fais que je simplifie trop. En fait, la façon dont moi j'ai compris l'intersectionnalité pour pouvoir m'en faire un ennemi facile à remettre en cause, je sais pas, c'est possible. Après, ce que je voulais juste dire par rapport, encore une fois, à une approche statistique, et c'est une question à laquelle j'ai pas répondu que m'a posé Gabriele, sur le fait que oui, en effet, au début du XXe siècle, il y a beaucoup de concierges qui sont issus de l'immigration espagnole, italienne, portugaise et également suisse, on pourrait rajouter. Ça se voit dans les stats. Et en fait, qu'est-ce qu'on en fait de ça si on n'a pas, en effet, toujours en tête de savoir qu'est-ce que ça signifie à ce moment-là ? Est-ce que, quand je parlais tout à l'heure de blanchité et d'évolution avec les whiteness studies, à l'évolution de ce que ça veut dire qu'être blanc et comment c'est codé, je pense qu'à l'époque, les travaux sur l'immigration le montrent, hein, les Italiens n'étaient pas considérés comme des blancs français, on va dire, peut-être qu'ils seraient encore une autre catégorie, et qu'il faut avoir ça en tête pour pouvoir lire, pour avoir une interprétation intersectionnelle longitudinale, quoi. Voilà. Et par rapport à la question de Dominique Mémy sur l'informalisation chez Cass Wouters, une façon de voir les choses, donc l'idée c'était, est-ce que la new money qui se retrouve face à ces travailleurs de la loge ne va pas forcément se comporter de manière polie ou va pour le coup ne pas être dans le camouflage des marqueurs de différence de classe. Et en fait, moi ce que j'avais proposé c'était de voir la distance sociale critique en deçà de, donc la distance sociale critique entre le travailleur et le client, en deçà de laquelle ça devient problématique de servir ce client-là parce qu'il nous ressemble trop. Et j'avais des extraits d'entretien où le concierge me disait, mais moi je veux pas servir ces gens-là, ils se comportent comme moi quand je suis au camping. Et ça, c'est pas possible. Et en fait, cette distance sociale minimale au-delà de laquelle ça devient légitime d'être au service de la personne, on peut la lire aussi du côté du client, et du client parvenu ou nouveau riche qui n'a pas été socialisé dans les classes supérieures, la grande bourgeoisie ou l'aristocratie, alors, de son point de vue à lui, peut-être qu'il y a un danger statutaire à être servi par des gens qui lui ressemblent trop, et que la manière de s'en prémunir, c'est justement de mobiliser ces marqueurs de classe qui passent du coup par des modes d'adresse très peu poli ou des choses comme ça. Et ça se voit très bien chez la clientèle russe. Ils ont la réputation, et j'ai pu le constater en travaillant à la loge, qu'ils ne sourient jamais. On parle des oligarques russes, pas les vieilles familles des Russes blancs. On parle des nouveaux riches russes. En fait, on peut en avoir une lecture sociologique aussi. C'est-à-dire que ne pas sourire, c'est se prémunir contre l'erreur possible, toujours possible, parce qu'on n'a pas les codes culturels pour interpréter le service qu'on nous a rendu. Donc on est incapable de dire si on s'est fait rouler dans la farine ou si, ah oui, c'était un très bon service. Donc dans le doute, je ne souris pas et comme ça, je ne prends pas de risque. C'est comme ça que moi, je l'avais un peu interprété, quoi. Voilà.
Il est 16h. Est-ce que vous voulez rajouter un petit commentaire?
Oui, juste un petit commentaire. En effet, je trouve que il y a la relation, la dimension du care, et ça crée un attente de réciprocité des femmes par rapport aux hommes, c'est-à-dire elles attendent d'avoir d'être prises en considération de la même manière. Mais je me demande aussi si plutôt que voir si je peux interroger la façon dont la relation de service se caractérise par rapport à l'évocation de la dimension familiale, ça ne peut pas être mis en relation avec ce que j'avais dit à propos du contexte. Alors, si nous ne parlons pas des relations familiales qui sont quand même caractérisées par une domination des hommes qui quand même sont plus actifs sur le marché du travail par rapport à un composant féminin qui reste encore à côté. Donc si il faut mieux mettre en relation la dimension familiale et la dimension de la relation de service. Merci.
Oui, juste un tout petit mot par rapport à l'intervention de Gabriele, parce que j'avais croqué la moitié de tes propositions sur l'effet des trajectoires sur justement la construction de ces catégorisations. Ce qui est intéressant, c'est que les grandes différences que j'ai pu observer dans cette association, c'est aussi par le biais d'une histoire professionnelle. C'est-à-dire que être et entrer dans une association féministe en tant que militante, puis y rester pour transformer son activité militante en activité salariée, avec une forme de salarisation sur le temps, où le projet militant aider les femmes vers l'autonomisation, etc., devient en même temps un marqueur par rapport à un type de professionnalisation différent. On ne va pas faire de l'abattage comme à Pôle emploi, on va justement prendre en compte les questions de genre. Moi, ça, je l'ai beaucoup vu et j'ai pu le comparer avec ces effets, me semble-t-il, de toutes ces logiques New Public Management, avec effet que les budgets de fonctionnement de l'association se réduisent, on part à la course aux subventions, et ces courses aux subventions régionales, départementales, européennes, font qu'on crée des emplois pour continuer à faire le travail, mais qui sont liés complètement au maintien de la subvention. Donc ce sont des emplois précaires, sous CDD, fréquemment beaucoup moins, avec pas nécessairement un temps plein. Et là, la tradition, si tu veux, le militantisme, c'est-à-dire que où le militantisme sert pour guider l'engagement professionnel, etc., il n'y a plus rien à voir avec ça. C'est-à-dire que là, on est vraiment dans le pragmatisme, il faut être efficace, il faut rendre des comptes, et on n'est plus dans cette dimension politique du travail. Voilà. Et donc, je pense qu'effectivement, il y a un effet sur les phénomènes de catégorisation, il y a un effet, la précarisation a un effet, et les trajectoires ont un effet sur la façon dont on appréhende les choses, il me semble.
Écoutez, on va clore cet atelier. Merci beaucoup à tous.
Merci beaucoup.
Et surtout, merci aux intervenants.